ערב טוב, חודש טוב, שיטה זה סיפה, קצת אום רבה בליבה, ערב טוב, חודש טוב, on s'approche de חג הפסח, j'ai presque envie de vous dire déjà חג שמח, חג שמח dans la mesure où j'imagine qu'il y a déjà des gens qui sont retournés en esclavage. Alors justement, non, je suis retourné en esclavage. J'ai commencé à nettoyer.
Il y a un
terroute.
Il y a un
terroute, ça. Tu vas coucher,
non?
Ouais, c'est un terroute, ça.
Alors.
Mais la poussière n'est pas Hametz, hein.
Alors, c'est ça. Justement, alors, ma phrase d'introduction à nos... On va avoir deux cours sur Chag HaPessah. Et la première phrase d'introduction, c'est de dire... Et c'est pas seulement vrai pour Pessah, c'est vrai pour toutes les fêtes juives, et vrai pour tout Bichlal le judaïsme. Il faut être normal. C'est-à-dire, y compris pour le nettoyage de Pessah, il faut être normal. Maintenant, je sais que cette phrase-là, elle rentre en friction totale et en contradiction totale avec des millénaires de minagim de sponjot. Et donc, l'homme est chané, ce qu'on va dire au niveau de la halakha, ça ne changera rien. Kachazé. Même si on sait que la poussière n'est pas chametz, même si on sait que Batachles, dans une famille où il n'y a pas de petit enfant en bas âge, ou, comme dit la Gemara, de poule. Non, parce que la Gemara dit, si tu as des enfants en bas âge ou des tarnégolotes, babaït, alors tu dois vérifier dans chaque recoin parce qu'il peut y avoir du chametz partout. Comme j'ai pu retrouver une gaufrette dans mon tiroir de chaussettes cet après-midi. Et quand j'ai demandé à mon fils qu'est-ce qu'elle faisait là, il m'a dit « Ah, tu l'as retrouvé !» Donc voilà, mais il l'a mangé, évidemment. Bon. Donc, elle m'a la sorte, il faut être normal. Ce qu'on va faire aujourd'hui et la semaine prochaine, enfin, je suis très présomptueux, mais l'objectif, c'est que, avant Chag HaPessah, on sache de quoi on parle. C'est-à-dire, l'objectif, c'est qu'on étudie la Haggadah, pour que vous n'ayez pas à la lire. Je m'explique. Vous allez la lire, très bien, tatapa, patapoum. Aval. Le soir du Seder est un jour de fête. Donc, un, on n'est pas obligé d'être complètement mort parce qu'on a nettoyé chaque grain de poussière de la maison. Et deux, on n'est pas obligé de rendre cette soirée-là... On n'est pas tous des gens qui sont sortis de la yeshiva. On n'est pas tous des gens qui sont à la yeshiva et qui ont envie de parler toute la soirée. Il y a des gens, je ne sais pas combien vous allez être respectivement dans vos soirs de Seder, mais il y a des gens qui ont des invités, des gens bien, des gens normaux, qui n'ont pas envie d'attendre 2h30 avant de pouvoir manger. Ça commence déjà tard, je parle même pas de ceux qui sont encore en France. Ça commence tard, le temps qu'on mange, on n'est pas obligé de rendre ça rébarbatif, saoulant et ennuyeux. On n'est pas obligé de faire tous les perouchim possibles et imaginables pendant la lecture de la Haggadah. Conseil pratique que j'ai reçu du Rav Jarki, mais qui à mon avis est dit partout. Si vous avez envie de faire des divrei Torah pendant le Maggid, maximum 3. Et de maximum 2 minutes chacun. Zéo.
En personne.
En tout. Parce que je sais pas comment vous êtes chez vous. 10 personnes autour de la table.
40.
Bonne chaleur là. Trouvez des idées, faites des jeux, faites des trucs, mais.
Tu viens couper la parole à Nathan sur le Pessah.
T'as vu, c'est fini. Pourquoi? Il peut en faire 3.
32 minutes.
32 minutes? Non, par contre, quand est-ce que tu gardes tes grands livrets Torah? Le repas. Pendant le repas, lâche-toi. Les gens, ils ont mangé, machin, etc. Quoique, hein, faut pas en faire trop non plus, parce qu'ils doivent continuer et finir le Hallel. C'est-à-dire, mais bon! Mais quitte, faut être normal. Et c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. La mitzvah principale, c'est de raconter. Et le problème, c'est que c'est tout sauf ce qu'on fait le soir du Pessah. Pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas le soir de Pessah? Parce qu'on est occupé à faire autre chose. On est occupé à lire. Lire la Haggadah. Or, l'objectif, c'est pas de lire la Haggadah, mais c'est de raconter la sortie d'Égypte. Je dis pas qu'il faut pas lire la Haggadah. Il faut lire la Haggadah. Mais il faut surtout raconter. Et savoir comment raconter, ben, c'est d'abord savoir ce dont on parle. Quelle est l'histoire de Pessah véritablement? Donc ce qu'on va faire, on va étudier tout simplement la Haggadah. C'est pas un truc qu'on doit faire le soir du Seder. On le fait maintenant à la semaine prochaine, pour qu'on n'ait pas à le faire le soir du Seder, et que le soir du Seder on se concentre sur la Sipour. Arbeut el Kef. Sipour c'est mieux. Alors on y va. Vous allez voir que c'est une Haggadah qu'on connaît. Moi j'aimerais simplement vous donner des petits tipi, mais voir qu'en vérité, il y a un fil conducteur qui vont amener au Maguid, et ça on y arrivera ce soir, et que le Maguid lui-même est construit de manière très claire. On va rentrer, l'éat-l'éat, dans le vif du sujet. Bon alors, on rentre, et il faut bien comprendre que le soir de Pessah, je vous ai dit, il faut être normal, c'est pour répondre à une autre problématique qui fait que toute cette soirée du Seder, elle sonne faux. Toute la soirée qu'on va faire, ou du moins qu'on a fait jusqu'à maintenant, il y a un truc qui sonne faux. On va voir que ce truc qui sonne faux, il revient et il revient et il revient. Peut-être pour que nous, on se prenne conscience qu'il y a un problème. Vous allez voir de quoi je parle. Alors on arrive à la maison, tout va bien, et on lance Kadesh. Bon, là j'ai pas grand chose à dire. Kadesh, c'est pas propre à Pessah. Chaque fête, Kiddush Hayom, Hakol Beseder. Une fois que j'ai fait mon Kadesh, je rentre dans les problèmes. C'est-à-dire, alors, vous avez vos Agadot, vous pouvez prendre le début de l'Agada, après le Kadesh. Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas de Kiddushim, hein, ça, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a après Kadesh? Ukhrat. Qu'est-ce qu'on fait dans Ukhrat? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? Les Tilat Yadayim. Sans bracha. Qui se lave les mains?
Le
chef de famille, tout le monde.
Tout le monde.
Oh, ah, alors tu dis quelque chose. Attends, tu dis quelque chose d'intéressant. Deux secondes. Tu dis pourquoi on fait Kadesh ou Khat? Pourquoi on fait Ukhrat?
On va tremper
quoi?
Non.
Le marron, non pas le marron encore. On va tremper le carpas. Et alors?
Donc avant de tremper,
ah, donc toi tu dis, parce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Kol davar shetibulo bemashkech, av ventilat yadayim. Tout ce qui est trempé dans l'un des sept liquides qui est marchir le touma, tu dois te laver les mains. Et je vais en faire un petit sondage éclair dans cette assemblée ici. Qui le fait tout le temps? Je sais pas, par exemple, ça vous est déjà arrivé de tremper votre croissant dans le café? Café au lait? Faites des filets d'ailleurs d'abord.
C'est un oseille
qui est... Ouais. Non, je fais un sondage. Je fais un sondage. Tu dis oui. Je fais un sondage. Mais toi, tu fais... Tu laves tes mains. Non, tu laves ta pomme. Tu dois te laver les mains avant.
Non, mais on lave en même temps les mains quand on lave la pomme.
Ah, on lave en même temps les mains. Non, c'est là ta fesse. Mais on doit se laver les mains. On doit faire un filet d'ailleurs quand on lave la pomme. Quand on a lavé sa pomme. Comment ça? Ah, tu la sèches d'abord. Donc parce que tu la sèches d'abord, ainsi que Marlo, voilà les camels tout moins. Yukhola le kabel douma, ok. Alors tu fais?
Une pomme tamée c'est meilleur.
Ah, une pomme tamée c'est meilleur. Hein. Alors non, je fais un petit sondage. Qui dans cette salle, à chaque fois qu'il va tremper quelque chose, dans l'un des sept liquides, bon en l'occurrence nous ce qui nous intéresse, le lait et l'eau, c'est de manière générale le mainstream, je vois pas beaucoup de gens qui trempent dans le sang, donc c'est le céder. Qui le fait? Allez, levez les mains. Donc il y a une personne ici, deux.
Yoni, il fait.
Non, il n'a pas envie de lever la main, mais c'est tranquille, je veux pas être. Il a envie de tremper son petit gâteau lotus dedans. Tranquille. Mais il n'a pas envie de se prendre la tête à l'aise. Donc, même si Yoni lève la main, ça fera jamais que trois personnes sur tout le monde. Et encore, c'est parce que vous êtes des Sfaradim. J'aimerais bien voir dans une communauté ashkénaze qu'il y ait une personne qui lève la main. Il n'y a pas. Et même chez les Sfaradim, on a la majorité de Sfarad ici, il y a trois personnes qui ont levé la main. Pourquoi? Parce qu'on ne le fait pas. Là, Zekatouf Bashoukhan Aruch. Hein? Lona, qui a dit Lona à vous? Le Chaya Adam. Chaya Adam, il a dit c'est vrai, c'est marqué dans Shoukhan Aruch qu'il faut faire Lona. Maintenant, moi ça ne me dérange pas que Lona à vous. Adéraba, Lona à vous, mais ça n'a qu'à vous. Alors, je me rappelle pas, tout le monde se prend la tête le soir de Pessah et le fait. Imlo Nahagou. Ah, tu dis c'est pour poser la question. C'est bon, on n'a pas encore entamé le Maguid. C'est on n'a même pas encore entamé le Veigad et Talebincha. On n'a même pas encore entamé le fait que je dois envoyer mon fils. Ça y est, il pose des questions. Que? Non, Lo Nahagou, c'est par rapport au fait de tremper, de se laver les mains avant de tremper quelque chose.
C'est quoi là? Quand on est sorti d'Égypte, il y avait la halakha.
Ah, tu dis quand on est sorti d'Égypte, la halakha c'était de se laver les mains.
Et
qui t'a dit?
Hein?
Qui t'a dit?
Il n'y avait pas encore
de halakha à ce moment-là non plus.
Oui, mais c'est la principale paix, elle existait quand même.
Attends, je comprends pas. C'est pas parce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch que c'est ça qu'il faut faire, que c'est ça qu'il faut faire. Ça a l'air? Attention! Par exemple, t'as entendu parler d'un rav qui s'appelait le rav Meir Yehuda Getz. Le Rav Getz, c'était, donc Bismano, c'était le Rav du Kotel. C'était également le Rosh Yeshiva Tamekoubalim Betel, donc c'est bon, un rabbin de Ligue des Champions. Un ancien de Tunisie. Et il raconte que lorsqu'il était encore en Tunisie et qu'il apprenait le rabbanout, à un moment donné, il est arrivé au Ilchot Shrita, Vetrefod, Vinyanim. Et il raconte qu'en Tunisie, ils n'avaient pas l'habitude de manger halak. Car, je ne sais pas s'il y a des Tunisiens ici, il dit, en Tunisie, on n'avait pas l'habitude de manger halak. Jamais. Et quand il est arrivé, donc, au Jukhanaour, il dit que celui qui ne mange pas halak, c'est Taref. Il est venu voir ses rabbins, ils lui ont dit, Rabotenu, on mange Taref. Alors qu'il y a un Jukhanaour, Maran. Et ses rabbins lui ont donné une réponse extraordinaire. Il m'a dit, dis-moi, et avant Rabbi Yosef Karo, on ne mangeait pas de viande? Non. Rabbi Yosef Karo, il pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a d'autres rabbins qui ont pensé autrement. Donc, si tu veux, le fait est qu'Am Israël, il ne fait pas d'avoir Shitibulo Benashkecha Benetiatenaïm. Il y en a qui font. Alors, on va dire, il dit qu'il faut faire. Il y en a qui font. Je dis pas grave, ils ne font pas. Mais la majorité, l'écrasante majorité du peuple juif, elle ne fait pas.
Mais bon, simple, c'est que quand ils ont écrit la Gada, il y avait le miracle de le faire, donc ils l'ont écrit.
Dama Tamarze.
Parce que c'est logique.
Attends, mais par rapport à quoi tu dis? Quand ils ont fait la Haggadah, il y avait le miracle de le faire.
Sinon, ça serait pas écrit.
C'est quand qu'ils ont fait la Haggadah?
Un
Tchèque Nesset Agdola,
non?
Un Tchèque Nesset Agdola, ils peuvent m'écrire dans la Haggadah, par exemple, Maaseh Berabbi Eliezer, Berabbi Yoshua, Berabbi Elazar.
Non, ils ont concocté.
La Haggadah, le noussard de la Haggadah tel qu'on a aujourd'hui, c'est à Savoraïm. C'est-à-dire au 7e siècle. On est déjà plus Bezman Bet Amikdash. Donc c'est quoi l'histoire? Bien, l'histoire, c'est tout ce que vous avez dit, mais venez, on le met ensemble. Behemet, c'est quoi cette halakha que Kol Davar Shetibulo Bemashkecha Ben Tiat Edaim? C'est parce que, lorsque je l'ai trempé, Azou Mourchar le Kabel Touma, il peut recevoir de l'impureté. Et quand moi, je suis dans une époque où je vais au Bet Amikdash, et que je vais amener sur la table dans 2 minutes Korban Pessah, je peux pas être en mode Touma. Donc, je vais tremper mon carpasse dedans, je peux pas être en mode Touma. Donc, je vais me laver les mains. Ah ben, on le fait pas dans l'année. Lama lona agu omer achaya adam ki kashé midai. Vas-y, kashé midai. Oui, parce que aujourd'hui, ça veut rien dire de se laver les mains avant de manger une pomme. Il n'y a pas de inyan Touma vetahara. On n'a plus de Bet Amikdash. Et donc, behemet lona agu. Maintenant, le soir de Pessah, ken na agu. Pourquoi? Tout le monde, Ashkenazim, Sfaradim, pourquoi? Eh bien parce que on va ouvrir, alors désolé d'utiliser cette formulation très française, mais on va ouvrir le premier coup de gueule de la soirée. Il y en aura plusieurs. C'est le premier, on part en cacahuète et on dit je suis pas d'accord. Toute la soirée, on est là pour dire à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Le premier je suis pas d'accord, c'est quand je me lave les mains avant de manger mon carpas. Je ne suis pas d'accord. De quoi? De rester dans cette situation où l'on a. En gros, je suis en train de crier, clapper Mala en disant je veux mon Bet Amikdash. Je veux mon Korban. C'est le premier coup de gueule de la soirée avant même qu'on ait commencé à raconter toutes les histoires. Donc, une fois que je me suis lavé les mains, bon après, Minagim, est-ce que c'est le père, le chef de famille, celui qui va toucher le carpas? Non, mais gêné. D'ailleurs, tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui et la semaine prochaine, si vous avez un Minag, vous gardez votre Minag. D'ailleurs, c'est le plus important le soir de Pessah. Donc c'est ma sorette numéro uno. Une fois qu'on a assez lavé les mains, on prend carpas. À la fin mode. C'est quoi le carpas? C'est quoi le carpas?
Du céleri.
Marloquette. Tu serais pas un peu ashkenaz sur les bords? Il y en a plein qui le font. Parmi ceux qui le font, il y a moi. Parce que je choisis la solution de facilité. Dans la mesure où j'aime pas le céleri, et j'aime bien les patates. Aval, soyons honnêtes. Mais soyons honnêtes. Pourquoi est-ce qu'on mange le carpas? Avant de savoir ce que c'est, pourquoi on mange le carpas? Non, pas le maro. Pas le maro. Carpas, c'est un petit légume, en l'occurrence le céleri. Mais pourquoi on mange le carpas?
Pour
ouvrir l'appétit. Alaka, kedel iftoach et avon. Vas-y, ouvre l'appétit avec des patates.
Un kilo.
C'est pas du tout le rayon. Ah maman, mal à la sorte qu'en Pologne ils avaient pas de céleri, ils avaient des patates, alors ils ont pas avec des patates. Maintenant, best-seller, ah ben c'est quoi le lien du carpas? Carpas on a dit, ben mettre le carpas c'est céleri. D'accord. Ça va là, moi. L'amant prend le céleri. C'est quoi notre coup de gueule lorsqu'on prend le carpas? Alors, Nachon, l'iftor tate avon, zedarkam shel bene chorin, c'est comme ça que font les hommes libres pépères, on est là, on souffle tate avon, parce qu'on va, on va se faire exploser l'estomac, on va se faire un repas de déglingos dans deux secondes, donc on souffle l'appétit, je veux bien. Mais pourquoi le carpas? Toute la soirée, c'est de la symbolique. Alors, la madafka carpas. La madafka carpas. Eh bien, les amis, c'est une explication absolument incroyable du Malbim qui dit que le carpas, le céleri, d'où est-ce qu'on apprend le carpas? De Yosef. Yosef, il avait un habit particulier. C'est quoi l'habit qu'il a reçu de son père? Ktonet Passim. Omer Malbim Sham. Que la Ktonet Passim, est-ce que c'est en longueur ou en largeur? Hein? C'est intéressant. Obélix vous dira que c'est, tout le monde le sait, c'est sur la longueur que ça amincit. Mais on ne sait pas. Le Malbim dit, non, on sait que c'est sur la longueur. Lama, qui est ktonet passim, et ça ressemble au mot karpas. Passim, karpas. Or, ce légume-là, le céleri, eh bien, il a des rayures sur la longueur.
Oui, mais pourquoi
pardon? Oui, mais le carpas, c'est pas des pommes de terre. Non, attention, attention. Le carpas, à la base, c'est un légume qui s'appelle le céleri. Mal à sorte que les juifs qui étaient exilés dans les terres nordiques de Pologne n'avaient pas de carpas. Donc ils ont dû prendre ce qu'ils avaient sous la main pour faire qu'ils louent genre carpas. Ils ont pris des pommes de terre. Mais c'est sûr que c'est pas l'idée, quoi. D'accord?
Mais pourquoi Yosef
maintenant? Ah, alors pourquoi Yosef maintenant? Qu'est-ce qu'on va parler toute la soirée?
Comment on est arrivé?
On va parler de quoi? Non, pas seulement de l'Égypte, mais de la sortie d'Égypte. Or, la sortie d'Égypte, il nous faut un koach manéa. Il nous faut un koach manéa, il nous faut quelque chose qui va nous faire sortir d'Égypte. Cette force-là qui nous fait sortir d'Égypte, d'abord et avant tout, c'est Mashiach, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, elle se retrouve pas dans Yosef, mais dans la ketonet passim de Yosef. Et donc lorsque je viens et que je mange mon carpas au début du seder, je viens dire voilà, je me rattache à ce qui va me permettre de sortir d'Égypte, c'est-à-dire à la force nationale du peuple juif. D'accord? Donc j'ai ouvert mon seder en disant je ne suis pas d'accord de rester en situation d'exil, et pour bien te montrer que je ne suis pas d'accord de rester en situation d'exil, la première chose que je fais, c'est de me rattacher à ce qui me permet de sortir d'exil. Ma chère Bénice. Donc j'ai mangé mon carpas, je suis content.
Ils n'ont trouvé que ça, genre le lien,
le couteau d'être passé, le carpas, tu dis, c'est un peu tiré par les cheveux, non? Quoi? Genre quoi? Propose?
Si vous crevez la tête, vous trouvez le couteau d'être passé.
La rhubarbe.
Yosef. La rhubarbe. Est-ce qu'ils avaient de la rhubarbe?
En Pologne,
oui. Ou en Pologne, mais pas en Europe. Ah, ben voilà. Oui, mais attention, je veux bien. Trouve-moi une autre symbolique, mais n'oublie pas que ça doit passer par la paix.
D'accord, mais bon, carpas, c'est pas...
Faut manger.
Oui, une
ça passe par là. Ah non, c'est un jeu de mots. Ah, mais dis-moi, tu sais pourquoi? Tu sais quel est ton problème? Ton problème, c'est que tu es en train de me faire une marloquette limoudite sur une soirée de Sipourim. C'est-à-dire que c'est bidiouk ce qu'il faut pas faire. Enfin, c'est très bien de le faire ici. Mais c'est bidouk l'anti-raïom du soir de Pessah. Le soir de Pessah, on rentre pas dans des pimpoulim. On raconte des histoires. En tant qu'histoire, ça passe bien, le coup de la tunique, le céleri, Obélix. Ça passe. Mais quand tu vas rentrer dans le limoud, t'es sorti de l'Ela Seder. Tu comprends? C'est pour ça que c'est bien ce qu'on fait là maintenant. Ta marloquette ici, elle est bonne. Je te dis oui, mais c'est pour rentrer dans le Sipour. Alors après, le céleri, t'aurais pu prendre autre chose. Zenaron, agave. Si tu prends autre chose, il y a ça, ta vie des chovas. C'est au niveau de la halakha pure et simple, le mec qui a mangé sa pomme de terre, il a fait son carpas. Ça a l'air. Mais il y a une sipour derrière. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai mangé mon carpas, qu'est-ce que je fais? Kadesh uchatz, carpas, yachatz. On coupe la moitié du milieu, lama. Alors d'abord, on va dire ce que la Gemara dit, comme ça tout le monde connaît.
Ce sera plus la mer qui s'ouvre.
C'est pour ça. Ah, il a fait. C'est pour se rappeler la mer qui s'est ouverte. On n'est pas encore là, on n'est même pas encore sorti d'Égypte. Et puis attends, ici on va sur l'Omidrash qu'elle s'est ouverte en 12. Tu coupes en 12 la matzah. C'est compliqué. Alors, la Gemara dit qu'ils aient l'échem oni, la matzah. Et donc, c'est le mode des gens qui n'ont pas, des anim, des pauvres, que de ne pas manger un pain entier, parce qu'ils en gardent pour demain, toujours un peu plus. D'accord ? Donc, c'est pour ça que l'échem oni, top, ça va, va. Mais venez, on met autre chose. Vous savez que normalement, yachat, cette deuxième partie qu'on garde, c'est pourquoi ? Pour la ficomane. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je vais faire mon yachat ? Normalement, je devrais être en train de couper ma matzah ? Normalement, je devrais être en train de me couper une cuisse de mouton pour garder pour la ficomane. Et c'est mon deuxième coup de gueule de la soirée. Je dis, comment ça, je coupe une matzah ? C'est non ! Nachon de lechem oni. Mais l'objectif du lechem oni, c'est donc de couper et de garder pour moi. Mais la deuxième partie, je vais la manger aussi, en tant qu'aficomane. Un aficomane, c'est pas de la matzah, normalement. Et donc, tout de suite, je suis censé arriver à cette prise de position. Je ne suis pas d'accord que ce soit une matzah. Une fois que j'ai dit, j'ai présenté la soirée, en disant je ne suis pas content de ma situation d'exil, que donc je suis prêt à manger directement ce qui va me permettre d'en sortir, et qu'en plus, je viens dire, encore une fois, qu'il me manque mon korban pesach à la shulchan, alors on peut commencer. Alors on peut véritablement commencer la mitzvah de la soirée. La mitzvah de la soirée, elle commence ici.
On ne mange pas d'agneau, là, pour essayer de manifester un mécontentement.
C'est-à-dire, on ne mange pas d'agneau.
On pourrait manger
Pour dire ça y est, on y est.
Voilà.
Mais justement, pour éviter un gros problème, le peuple juif, il a pris sur lui de ne pas manger de viande grillée le soir de Pessah. C'est un minagim. Non, c'est pas tout ça. Chez vous, on mange de la viande grillée. On mange ou pas chez vous ?
La veille.
Pas parler d'agneau là pour le coup.
Il
est cuit, non ? Tu fais de l'agneau au barbecue le soir de Sadar ? C'est pas de barbecue. Non, j'ai pas parlé d'agneau. J'ai dit, Am Israël a pris sur lui de ne pas manger de viande grillée. Alors attends, la majorité, l'écrasante majorité du peuple juif, je vais arriver au Thémanim dans deux secondes, du peuple juif, ils ont pris sur eux, c'est un minag, de ne pas manger de viande grillée le soir du Seder, justement pour ne pas penser que c'est le Korban Pessah. Les Ashkenazim, ils ont été plus loin, ils ont dit non seulement on ne mange pas de viande grillée, mais en plus on ne mange pas d'agneau. Grillé ou pas grillé ? C'est-à-dire ? Les Thémanim, qui, on le sait, ne se sont jamais pris la tête avec les considérations de Khumrot, eux, ils n'ont pas pris ce minag-là. Ils mangent de l'agneau grillé le soir du Seder. Et c'est très bon. Il n'y a pas que les Thémanim d'ailleurs, il y a aussi la communauté de Rome, qui n'ont jamais pris sur eux le minag de ne pas manger de vin grillé. C'est-à-dire, donc Zénachon ! Mais la majorité du peuple juif, ils ne mangent pas de vin grillé. Pourquoi ? Parce que si tu commences à manger de la viande grillée, tu sais ce qui va se passer ? Et de l'agneau grillé, la malo ? Et à un moment donné, tu vas te dire, c'est bon, j'ai plus besoin d'un corban, tu sais. C'est-à-dire que ça va faire l'effet inverse. Parce que tu te diras, c'est bon, je suis content de ma situation. Non, je suis pas content de ma situation. Parce que finir mon repas sur un bon shawarma, bien qui coule comme ça, tu vois. Oui, je suis content. Finir mon repas et j'ai plus rien le droit de manger après, quand je me suis bourré avec kazaït matza, je suis pas content. Et donc, c'est bien ça qu'on parle, c'est de ça qu'on parle. Maintenant, agave, témanim, pas témanim, cette phrase, je vais être obligé de la dire en hébreu, parce qu'on ne peut pas la traduire en français. Quand on était à l'armée, il y avait un klal, un principe de base, pour tout ce qui était du domaine des halakhot. Alors, je vais le dire en hébreu, je m'excuse. C'était sur tous les sujets. Ashkenazim, machmirim, sfaradim, makelim, témanim, lonag. Comme ça, c'était un klal, un principe barzel. Mais kitsour, une fois qu'on a présenté la soirée, c'est parti, on y va et on fait la mitzvah de Pessah. Oui, il y a plein de mitzvot le soir de Pessah, mais il y en a une qui est principale, c'est celle du Magid. Veigadeta lebincha bayom ahu lemor, c'est la mitzvah numéro uno, la mitzvah principale. Top, c'est affaire, mais moi j'ai un problème. Parce que si c'est la mitzvah numéro 1 de la soirée, et c'est Behemet Kacha, c'est une mitzvah, oui ou non, de raconter la sortie d'Égypte? Oui. C'est une mitzvah assez ou l'autre assez?
Assez.
Assez. Ouais, alors qu'est-ce que je dois faire avant de faire une mitzvah assez normalement? Où est ma bracha? Tu fronces tes sourcils. La main. Quand tu fais une mitzvah assez, tu dois faire une bracha. Il est, regarde. Plus tard dans la soirée, tu vas manger de la matzah. C'est une mitzvah. Ok? Shivat yame, matzot tochelu. Et donc, qu'est-ce que tu fais avant de manger? Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. Cher qui tient dans le matzot d'Avsir. Non, à l'achilat matzah. Maror, à l'achilat maror.
Il y a plein de mitzvot assez.
Genre?
Je peux dire une bêtise, mais
faire la tzedaka. Alors, faire la tzedaka, c'est me'od nachon. Pardon? C'est où? Chez Enchiou. Donc tu peux pas faire une bracha sur quelque chose qui n'est pas quantitable. Quantitable. On a compris. Ah si, justement, il y a un chiour. On va voir. Que ce soit Pessah, Matzah, Maror ou autre chose, mais il y a quelque chose. Ok. Donc qu'est-ce que... il y a une mitzvah assez, et avant de faire une mitzvah assez, je dois faire une bracha, une mitzvah assez. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a fait le kiddush. Non, le kiddush, c'est pas sur la mitzvah. C'est sur kiddush ayom. Vous allez me dire, on a fait Boré Peri Adama. Top, ça c'est sur le Karpas. C'est pas sur la mitzvah de ma guide. Top, Emmet, cette question-là, hein, c'est pas moi qui la pose. C'est Rabbi Moshe Sofer, Achatam Sofer. Pose la question. Il devrait y avoir une mitzvah, une bracha, il n'y en a pas. Il se creuse la tête, et pendant ses pilpoulim, il se rend compte qu'en fait, il y a une bracha. Il y a une bracha, seulement elle n'est pas au bon endroit. À la fin du Maguid. Alors, on va faire un jeu de diff-douf terrible ce soir. Prenez la fin du Maguid. La fin du Maguid. Donc juste avant de manger. Juste avant Motsi, Matza, Maror, Tatata. Vous l'avez? D'accord? Berkat Gaal Israël. Vous l'avez la bracha?
Oui.
Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Gaalanu Vekaalet Avotenu Vetatata Vetatapum Vetatapum. On reviendra sur cette bracha après, mais vous l'avez la bracha ici, elle est là. Nous dit Chatam Sofer, il y a une bracha. Bon, mais il y a un problème parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Il faudrait la faire avant le Maguid. Ah, alors il te dit, justement, dans 10 secondes tu me redis ta phrase. Juste, je dis la mienne, ensuite tu dis la tienne. Et le Chatam Sofer, il dit, à ma connaissance, je ne connais pas d'autre cas où on fait d'abord l'action et ensuite la bracha. À toi. Mais ne t'y attends pas. Ouais, mais ne t'y attends pas. Mais deux secondes. Bande d'Ashkenaz. Deux secondes. D'abord, ne t'y attends pas. Oui, mais ne t'y attends pas. N'oublie pas que ta bracha, tu l'as fait alors que tu as encore les mains mouillées. C'est-à-dire que tu es encore dans l'action. Quoi? Ça, c'est pas une mitzvah. C'est quoi? Non, j'ai pas le droit de m'essuyer les mains d'abord. C'est-à-dire que je fais toujours partie de l'action. Alors là, et là, j'entends à ma droite, à la Kadmirot Shabbat. Alors, c'est pas parce que aujourd'hui, il y a une grande partie du monde séfarade chez Ishtaknez que ça en fait la réalité. C'est-à-dire que vous connaissez les Ashkenazim. Les Ashkenazim, on aime se triturer la tête. Et donc, on s'est dit, si jamais on fait d'abord la bracha, on a fait rentrer Shabbat, alors on peut faire allumer les bougies. Aval be doré dorot, al gabé dorot. Les rabbinim sfaradim, ils ont toujours dit qu'il fallait d'abord faire la bracha, et ensuite allumer. Ve al te balbel li et amor. Donc, c'est pas parce que nous, les Ashkenazim, on s'est pris la tête. D'ailleurs, c'est Ma'anien, le Khatam Sofer, il est Ashkenaz. Et il rentre pas ça. Il dit, à ma connaissance, à la fin, il va dire, non, je connais en fait un cas. Mais il ne parle pas de la Dakat Nero Shabbat. Peut-être qu'il connaît les Sfaradim. Il dit, il y a un cas où, oui, on fait la bracha après l'action. Et il dit, et de là, il va apprendre sur la sortie d'Égypte. C'est quoi ce cas? Mais il dit, c'est à guerre chez Tovel le Geruto. Un converti qui veut se convertir, d'abord, il doit rentrer au mikvé, et c'est quand il sort qu'il va faire la bracha. Chef de Ma'anien, Stam curieuse au niveau de la halakha. La halakha dit que quelqu'un qui se convertit, chez Uyotse Minamikve ou Yehudi. Et s'il se noie? Madino.
Il est mort
juif,
il n'est pas juif.
Ah, on enterre juif ou on n'enterre pas juif? Oui, parce qu'on va le sortir du mikvé à un moment donné. Donc c'est pas ça. Oui, oui, des fois c'est morbide, oui, alors, ce qu'il y a. On est Ashkenaz ou on l'est pas ?
On l'est pas.
Voilà. Les Kitzour, à guerre chez Tovel et Gerouto. Un converti qui se convertit. D'abord, il va au Mikvé, ensuite il va au Bacha. Pourquoi ? Nihatam Sofer, c'est Barou. Parce qu'avant qu'il sorte du Mikvé, donc il ne peut pas dire Asher Kidesha nous, Bébitzvot Avet Siva nous. Il ne fait pas partie du nous. Il dit c'est exactement la même chose.
Et pour après, c'est à la
c'est une bonne question, je ne sais pas exactement.
C'est une
bracha
sur la
tvila
ou sur le
petit de Yehudi? C'est un moussard un petit peu moussard. Je vais le faire la semaine prochaine. Mais c'est à la mitzvah de l'Itgayer. C'est pas une mitzvah qui est pour toi ou pour moi, mais Mishirotse, Azou Mitzvah Efeze. Nous dit le Khatam Sofer, c'est Nachon, Gam, c'est vrai aussi pour la sortie d'Égypte. Il dit, Agav, c'est une phrase globale sur ce qu'on va faire maintenant qu'on va commencer à lire le Maguid. J'ai une fâcheuse tendance à penser que ce que les gens écrivent, que ce soit dans le Talmud ou nos sages, après, ils croient dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire, s'ils écrivent quelque chose, c'est qu'ils y croient. Or, le Talmud nous dit dans le traité de Tzachim, et ça va être repris par le Rambam au niveau de la Halakha, c'est une phrase que vous connaissez. Bechol dor vador, chayav adam, irot et atzmo, ki ilo hu, yassam et mitzrayim. Est-ce que c'est seulement une phrase littéraire, ou c'est pour de vrai ? J'ai tendance à penser que c'est pour de vrai. Et donc, nous dit le Khatam Sofer, donc, avant de sortir d'Égypte, tu ne peux pas faire la bracha. Pourquoi ? Parce que c'est qui le patron avant que tu sortes d'Égypte ? C'est Pharaon. Donc tu ne peux pas dire « Baruch Atah Hashem ». Non, c'est Pharaon le patron. Donc ce n'est que une fois que je suis sorti d'Égypte, et pour moi c'est quand je sors d'Égypte, quand je raconte la sortie d'Égypte, je sors d'Égypte, et bien ce n'est que après cela que je peux faire partie du clan Israël et que donc je peux faire la bracha. Et c'est pour ça que la bracha du Maguid, elle est là.
Là, tu voudrais dire que la bracha, elle est sur le col d'Orbador. Il dit que là, la bracha, elle est sur la mitzvah avec Gatal et Dintra.
Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que pour que je puisse dire à mon fils que quoi, qu'on est sorti d'Égypte, il faut que d'abord, on sorte d'Égypte. Et c'est pour ça que d'ailleurs, juste avant de dire la bracha, tu vas dire cette phrase. Le col d'Orbador, madame, il y aura pas de mots. Donc tu ne peux pas.
C'est pour le
sipour.
Si on avait de manière plus pratique, si on avait réfléchi, ils ont mis la bracha à la fin. C'est pas bon, parce que si tu l'as fait au début, alors tu n'as plus parlé que avant de la Sierdat pendant toute la Haggadah. Jusqu'à ce que tu finisses, mec.
Non, j'ai pas compris. Pourquoi tu pourrais plus avoir de la Sierdat ?
Si tu mets la bracha.
Chien, Nilo Mevin. Slicha.
Elle est jusqu'à la fin du Maguid.
Alors, si c'est ça ton problème, si c'est un problème de Limoud. Non, j'entends. Tu dis, si je mets la bracha au début, c'est les mecs qui sont dans les chives, tu vois. Ils disent, on va faire des problèmes là où il n'y en a pas. C'est ça, ça fait partie du jeu, à la yeshiva, on passe toute la journée à faire des problèmes là où il n'y en a pas. Vous aimez ça d'ailleurs. Tu dis, si on fait la bracha au début, alors j'ai plus le droit de changer mon avis à cette date, juste à ce que j'ai fait la mitzvah. Et donc, mais attends, alors très bien, donc moi je vais te donner un pitaron. Tu fais la bracha au début, et juste après la bracha, tu dis, Pesach Matzah Omaror, Yatzati Yedechova, et après c'est bon, je suis pépère. C'est quand même Pesharim. Oh, on aurait pu s'arranger. Or, c'est pas le cas. Parce que, et comme tu dis, c'est pour la Sipour. Mais d'accord, mais toute la soirée, c'est la Sipour. D'accord ? Allez, je répète encore une fois. Moi, c'est ce que je fais chez moi. Même si des fois, j'ai des nagdouillottes qui viennent mishamaim, c'est-à-dire mes parents, ou d'autres personnes autour de la table. Mais si ça ne tenait qu'à moi, la lecture de la Haggadah, top chrono, 9 minutes et c'est fini. Non, mais mettre. Et moi, c'est ce que je fais, ce que j'essaie de faire. C'est qu'on fait toute la lecture d'Abbé, toute la lecture, hein, tic-tac, hein, on dit tout, à voix haute. Mais le plus vite possible, je dis le top départ, je dis le top d'arrivée, et une fois que j'ai fini tout ça, alors on peut commencer à mettre Sipour et Mitzrayim. Et c'est parti, et les déguisements, et les jeux, et les compètes, et les trucs, c'est Sipour et Mitzrayim. C'est sûr que la Haggadah, c'est pas ça qui va aider nos enfants à se l'Itraber. D'ailleurs, tiens, c'est intéressant, comment elle s'appelle cette mitzvah ? Vous avez dit, ça veut dire quoi en français ?
Tu raconteras.
Mais qu'est-ce que ça veut dire les hagid en profondeur ? Vous savez, quand on cherche la traduction d'un mot en hébreu, en profondeur, on va voir quoi ?
La racine,
effectivement, ou alors la racine, la première fois, ou alors l'araméen, le targoum, ma chénikra. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Talmud, dans le traité Khoulin par exemple, quand on parle de goud asik ? Au goût d'Achik, l'air guide, c'est non, pas à couper.
Non, mais
c'est pas une sorte de méfiance. Et on le rapproche. C'est-à-dire, l'air guide en araméen, ça veut dire rapprocher. C'est ça le but. Agar, c'est à ça que servent les guidim dans le corps. Ça rapproche les parties des unes avec les autres. Et c'est tout ça. Pardon ?
Le guidim en français,
Ligaments croisés. Les tendons. Si je me trompe pas.
Ligaments.
Ligaments, tendons. Ligaments. Tendons. On a Marc Loquet. Dans tous les cas, je crois que les deux, ils servent à la même chose, de rattacher deux parties, non? Bon, mais Kitsu, ça rattache. Ça rattache. C'est ça le but du jeu ce soir. Donc, si tu crois que tu vas réussir à rattacher tes enfants en leur faisant des pilpoulim, il khatim, la brioute. Mais je pense pas que la majorité des enfants, ils sont attachés par ça. Le salaire. Donc, on a fait notre bracha. En fait, on l'a pas fait, mais on sait qu'elle va être là. Et on peut commencer notre histoire. Et on commence le Maguid par un mensonge éhonté. Oui?
Le fait de dire, je vais lire en 9 minutes, c'est pas comme un peu dire, je comprends pas la fila, je vais la faire hyper vite, après je
rajoute ah
ce que je veux rajouter d'ailleurs.
Mais t'as pas compris.
Mon problème, c'est que je comprends pas la Agada.
Mais je comprends très bien la Agada. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là maintenant. On va comprendre la Agada. La Amik. Mais ce soir de Seder, le but du jeu, c'est pas de lire. C'est pas non plus de faire des pilpoulim. Le but du jeu, c'est Veigata Rebincha. Les sapers et Tiad Mitzrayim. Chazal. Au fur et à mesure des générations.
Minimum commun, quoi.
Chazal, ils t'ont donné un pense-bête. Parce que le problème que t'as, c'est que quand on t'a parlé de te raconter la sortie d'Égypte, on t'a pas dit comment le faire. Donc les gens qui ont un khouchbari, ok, mais sinon on t'a donné un pense-bête. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut pas la hamik. Il faut la hamik, c'est ce qu'on fait maintenant. Pourquoi? Pour savoir quoi raconter le soir du Seder. C'est-à-dire, mais le texte lui-même, c'est pas un texte biblique. C'est-à-dire? Alors, on commence le Maguid et on le commence par un mensonge éhonté. Mais un mensonge bien comme il faut. Et pour le coup, là, je vais prendre la communauté ashkénaze, même vraiment yékite, parce que chez eux, le mensonge, il est encore plus vrai. On dit la même chose, c'est tout le monde. Mais ceux qui sont d'une communauté yékite, ils vont se comprendre de quoi je parle. On commence comment quand on lance le Maguid?
Hein? Par rapport au fait que c'est une obligation positive, il n'y a pas un point d'obligation positive qui n'est pas liée aux femmes, les femmes ne sont pas obligées.
Nachon, et pourquoi elles le sont quand même obligées? Qui a fait Mayou Botoan? C'est des trucs, c'est Nashim Sadkaniot, tout ça. Ok? Comme un pourri. Donc on commence le Maguid, et on commence le Maguid en disant quoi? Alors reprenez le début. On commence le Maguid, et là, bah, vous connaissez. Halachmania. Voilà le pain de misère. Voilà, ça c'est bien, ça fait plaisir. Et là, le mensonge. Celui qui veut, qui vienne. Celui qui a besoin de manger, allez, ça fait plaisir. Et je me tourne vers nos frères Yakim, dans le monde entier. Où chez eux, il y a, je sais pas, 20 personnes invitées autour de la table du Seder. Et vous savez qu'une des choses extrêmement importantes de préparation, c'est que l'après-midi, avant de recevoir les invités, une des choses les plus importantes, c'est que sur les places de chacun, il y a le petit papier avec le nom de la personne qui va s'asseoir. Et Chas Veshalom, de ramener quelqu'un. Parce que c'est quoi ce Alarmania? Tu dis, tout celui qui a besoin, il vient manger. Mais tu dis ça quand? Quand tu es déjà rentré à la maison devant la chaise avec ton petit papier. C'est quoi ce mensonge, cette blague?
Il y a des places vides.
Ah ouais?
Ouais.
Ouais, pour qui?
Pour les invités.
Mais c'est qui?
Qui viendront peut-être.
Tu connais beaucoup de familles, toi, qui en plein milieu du CDR, ils ont des invités. Ouais, oh, ouais, ça fait plaisir, allez là.
Tu fais ça après qu'ils douchent aussi.
Non seulement tu fais ça après qu'ils douchent, tu fais ça à la maison, t'as déjà fermé la porte à double tour. Et tu fais genre Elia Wanavi, mais bon, c'est bien que voilà, c'est moi qui fais bouger la table. Hein, ça va, on la connaît l'histoire.
C'était interdit au
Alors, c'est Bidou Kenya. C'est exactement de ça qu'on parle. C'est-à-dire que tout ça, c'est une grande blague. Si vraiment tu veux inviter des gens, dis à l'Armania à la synagogue. Tout celui qui n'a pas où aller, venez, il y en a plein, Shabbatot, il y a plein de gabaïm dans les synagogues qui font ça. Genre, il y a des familles qui veulent inviter, les familles qui veulent inviter. Mais c'est pour, encore une fois, c'est le troisième coup de gueule qui fait Chazaka, que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe ce soir. Ce soir, je dis, Kol Dirfin, je dis tout celui qui a besoin qu'il vienne. Tu vois Dieu, je les invite à tout le monde. Alors que normalement, je n'ai pas le droit. Parce que normalement, lorsque je mange mon Korban Pessah, je ne peux pas faire cette phrase-là. Parce que Korban Pessah, on est Echal Chaburot Chaburot. Il doit être mangé, c'est-à-dire qu'au moment, je peux inviter autant que je veux, autant de personnes que je veux, c'est-à-dire. Mais au moment où je vais shriter mon Korban, il faut que j'ai la liste de tous les gens qui vont manger ce Korban. Je ne peux pas en rajouter un après. Et donc ça veut dire que ce Alachmania, une fois que je suis déjà installé, il n'est pas normalement faisable.
Pourquoi il faut savoir d'avance?
Ah! Parce que normalement, c'est kol mishpacha ve mishpacha, tout le monde. C'est chad, c'est la baït. Donc, ok, s'il y a des gens qui veulent venir chez toi dans ta baït ce soir-là, ça va pas, mais... Ça va. Encore une fois, je viens et je dis je ne suis pas d'accord. Non, j'ai fait trois fois où j'ai dit que je n'étais pas d'accord.
Oui. Pourquoi c'est spécialement les yékim
Parce que j'ai rarement vu dans des familles séfarades où il y a des petits papiers avec les noms des gens. Non, je sais pas, peut-être je me trompe. Mais bon. Non, c'est pas... Pourquoi? Parce que tu es yékite? Tu l'as mal pris? Mais chez moi aussi, il y a des petits papiers avec des noms.
Je sais, c'est toi aussi.
Je sais, mais attends. Ce soir-là, il ne faut pas se battre avec les minagim. Ça ne marchera pas. Il y a des choses que la halakha nous dit de faire le soir de Pessah qu'on ne fait pas. Par contre, des minagim, il y a règle à aller à bord. Ok? Genre, ma mère, elle m'a déjà dit qu'on avait un problème cette année. Et donc, je suis en train de me galérer pour trouver des gens à inviter. Tu vois, parce que c'est compliqué d'inviter des gens à Pessah en Israël. Les gens, en général, ils ont où être. Si vous connaissez des gens qui veulent venir chez moi, Bekef, parce que j'ai un vrai problème, ma mère a déjà compté qu'avec le bébé de mon frère, ma lettre 13. On peut pas être 13 de sang, c'est là. Oui, parce que Jésus, ils étaient 13. Alors, tu préfères ça ou les petits papiers? J'ai choisi. Donc, El Malasot, on va pas se battre contre les Minagim. On sait que les Minagim, ça bat tout le monde. D'accord? Mais Kitzo, là, une fois qu'on a fait ça, on peut rentrer dans la Haggadah. On peut rentrer mamash dans la Haggadah et c'est parti. On va rentrer dans le Maguid, donc dans notre mitzvah principale de la soirée. Je vais vous demander de Léat, on a le temps. On va voir de quoi il s'agit. La vérité, c'est que cette Haggadah-là, elle est longue. Là, franchement, elle est longue. Alors d'après ce que tu dis, j'ai l'impression que toi, tu aimes... Entre le kiddush et le repas, combien de temps chez toi?
5 heures.
Voilà. Et après on se bat, est-ce qu'il faut manger kazaïd de carpas ou pas kazaïd de carpas, hein, qui mange de toute façon, c'est devenu long. Elle n'a pas toujours été aussi longue la Haggadah. Parce que justement, on parlait de mitzvah kol shiur, pas shiur. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau mitzvati le soir de Pessah? Qu'est-ce qu'il faut faire? Raconter la sortie d'Égypte. Car le problème, c'est qu'on ne m'a pas dit exactement quoi faire. La Mishnah, elle m'a oui donné une indication qui est halakha. C'est quoi? Non. Pessah Matzah Umarov, c'est la tafora de Zé. C'est-à-dire que, Kol Michelo Amar, Socha, Dvarim, Elo, Bapessah, ça ne suffit pas de dire Pessah Matzah Umarov. Il faut expliquer un petit peu de quoi on parle. Maintenant, la Mishnah, elle ne te dit pas Pessah Matzah Umarov. Elle te dit Tsarich Leatril Bignout ou Lsayem Bechev. C'est-à-dire que quand tu racontais la sortie d'Égypte, il faut commencer par ce qui était pas bien et finir par ce qui est bien. Top. Le problème, c'est que la Mishnah ne nous a pas dit ce qui était le Gnout, ce qui était le Sheva. Alors, c'est quoi le Gnout et c'est quoi le Sheva? Ah, vas-y. Alors, toi, tu dis quoi? Toi, tu dis on était à Vadim, et donc ça, c'était le Gnout. Et le Sheva, c'est quoi?
On est
Bnéchorin. Donc, je vois que vous avez. Beaucoup passé de temps à Soura. Vous venez certainement de la ville de Soura. Vous étudiez chez Rav. Mais pas chez Shmuel. Parce que à Pompédita, c'est pas ça qu'ils disent. C'est ça. Eux ils disent non, quel est Rami Ovedavi? Rami Ovedavi c'est après. Qu'est-ce qu'ils disent à Pompédita? À Pompédita ils disent c'est pas ça le problème. C'est quoi la Gnout? C'est que Mitechila. C'est pas Rami Avedaber, Rami Avedaber c'est machin frère. C'est Mitechila ou de Avodazara et Avotenu. On était idolâtres. Vema Sheva. Vachar, Kirvanu, ma comme la Avodato. Et maintenant, on est devenu serviteur de Dieu. Donc il est Machloket. Ah oui, c'est des juifs. Il y en a qui t'ont dit, la Haggadah c'est de dire on était esclaves, on est indépendants. Il y en a d'autres qui ont dit, non, la Haggadah c'est de dire qu'on était idolâtres et maintenant on est religieux. Résultat des courses, eh bien, il y avait, pendant toute la période du Talmud, deux styles de Haggadot différentes pour le peuple juif. Il y avait des familles qui disaient la Haggadah Rav, des familles qui disaient la Haggadah Shmuel, qui est devenue après Machloket Abaye et Rav Agam. C'est-à-dire, il y avait des familles qui disaient une partie du texte et des familles qui disaient l'autre partie du texte. Ce n'est qu'à l'époque des Savoraïm qu'on a réuni les deux Haggadot pour en faire qu'une seule, celle qu'on connaît aujourd'hui. Attendez, ça veut dire qu'on a une Machloket entre deux C'est quoi la marloquette, elle est sur c'est quoi la fête? Est-ce que c'est une fête nationale? On était esclaves, maintenant on est indépendants. Ou est-ce que c'est une fête religieuse? Ou enfin, pardon?
C'est les deux.
Bah, c'est toute la question. Est-ce que c'est une fête d'Ati ou Léoni? Et qu'est-ce que Khazal ont décidé de faire? Dire que c'est une fête d'Ati Léoni. Enfin, vous riez. Vous savez, c'est extraordinaire. Et ça, je l'ai reçu. Laura Cherki le dit tout le temps, mais à un moment donné, ça rentre. Il dit, allez dans une yeshiva à Bnei Brak, pas loin, hein, à Jérusalem, une yeshiva chavédite, passionniste. Et voyez, si jamais quand un rav il dit que les charedim ils ont raison, quelqu'un rit. Personne ne sourit. Alors c'est barou. Si le Rosh Yeshiva de Ponyovitch il dit que les charedim ils ont raison, tu verras personne sourire. Mais dans le tzibour, à Dati Lehumi, quand on dit que c'est nous qui avons raison, tout le monde rigole. Bah oui, je sais pas ce que ça veut dire, mais oufda. Et là, j'ai dit c'est une agada Dati Lehumi, les gens ont dit ah bah c'est pas. De quoi tu parles?
Ça y est, comment?
Tu vois? C'est sympa 5 minutes, mais bon. Non, mais c'est une chéla. Est-ce que c'est une agada d'Atif ou Léoumi? Et la vérité, c'est que Khazal, ils ont mis les deux agadotes ensemble. Aval, laquelle ils ont mis d'abord?
Léoumi.
La Léoumi. Ils ont mis d'abord la Avadi Maïdou. Mais on va voir qu'il va y avoir quand même des petits pics sur l'autre. On va voir. Et venez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec le texte lui-même. Alors. Avadim aïno les paroles de Mitzrayim. Ok.
On est quand même passé à Manishtana.
Ah oui, j'ai pas fait. Slicha. Oula. Slicha. Taoucheli. Alors, t'as raison. J'ai dit qu'il y avait deux agadotes. J'ai voulu aller trop vite. Il y avait deux agadotes. La vérité, c'est que ces deux agadotes, elles sont très bien représentées dans notre agada à nous. Et elles ont toutes le même schéma. Une introduction, une batterie de questions, qui en fait amène l'histoire. Et le développement de l'histoire. Donc dans la première Agada, on a Alach Ma'ania, c'est notre intro. Diachalou Avatana Dara de Mitzrayim, Kol Dirfin Yete Veissa, Kol Yete Veissa, Ashata Avde, Shana Abba Ben Echorin. Voilà, c'est ça le pôle du truc. On était esclaves et l'année prochaine on sera libre. Boum. Et là-dessus, le Manishtana. Quoi? Ah, et moi, vous faites quand, vous? Après, à la Rahmania? Non, lui, d'accord.
Avant.
Ah non, lui, il dit qu'on fait avant, bibilou. Fais-tu moi ou bibilou? Je comprends pas. Hein? Vous avez vendu, là? Mais non, mais c'est pas les deux Marocains?
Non, il y a un moitié tunisien.
Avec moi, c'est tunisien. Petit papier. Tu t'appelles? C'est quand même plus facile que de faire ton
nom. Bibilou, c'est
Agave. Si déjà on est dans les minagim qui ont perdu complètement leur sens, parce que Etmol, les bibilots et les petits papiers, ça je veux bien. Mais attendez, c'est quoi cette histoire de Etmol? D'où ça vient? C'est quoi? Ah, ou Passar, mais Al-Batel Mitzrayim, avec le plateau.
C'est un symbole.
Non, mais alors si tu fais. Mais alors quel rapport avec le plateau? Tu veux dire il a passé, alors fais que le papa il arrive et il fait comme ça au-dessus de la tête des gens.
On mettait le
maroc
sur le linteau des portes.
Le maroc sur le linteau des portes, c'est pour quoi faire? C'est quoi, tu vois? À la fin de Pessah. Top. En Algérie, on m'a dit qu'il balançait le maroc par la fenêtre.
Et
les Thémanis, ils se frappent
avec le maroc.
J'ai dit à la brioute. Attends, chien. Il faut savoir que ces minagim là, à la base, ils ont un makor. C'est pas... C'est quoi le makor de prendre bibilou et tmol? Makor, il est dans la Mishnah. Dans la Mishnah. Ah, ils n'ont pas dit bibilou. Mais le makor, c'est quoi? C'est que, vous m'avez dit, là on est rentré dans le magid, donc ça veut dire que tout l'objectif, c'est d'amener l'enfant à poser des questions. Et donc la Mishnah, elle dit... Betrilat haSeuda, okrim et haShulchan. On enlève la table. J'aimerais bien voir maintenant les chefs de famille, hein. On enlève la table et c'est avec la table qu'on passe. Non. Aujourd'hui, on a fait plus simple. On prend le plateau. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'était quoi la table? C'était le plateau. On mangeait par terre, à l'ancienne. Où on mettait une énorme, kehara énorme, dessus. Qu'est-ce qu'on mettait sur la kehara?
Un plateau.
Non.
C'est le plateau.
Le plateau. Sur le plateau, on mettait quoi dessus? Plein de matzot. Des salades. Un agneau.
Un œuf.
Quel œuf? Pas un œuf. Mais non! Tu mettais un agneau, et à la place de ton omelette, tu mettais une vache.
Oui.
Pour le Corban Chagiga. Normalement, on n'est pas obligé de se rappeler. Ça, ça me fait penser. Vous avez déjà été dans les minarets à Kotel?
Oui.
Dans les tunnels du Kotel? Il y a la synagogue du Rav Getz. Ouais. On voit à un moment donné, c'est quand on est devant un grand char, une des entrées du Harbaït, où le Rav Getz, quand il est rentré là-bas, au début des fouilles, ils ont trouvé une synagogue. Et quand on a retrouvé dans la Gniza Kairit, au Caire, on a trouvé des textes qui montrent qu'effectivement, les musulmans, ils ont permis, dans ces tunnels qui menaient au Harbaït, en 701, ils ont permis aux juifs de construire une synagogue là-bas. Et le Rav Getz, il a retrouvé donc la synagogue, il était comme un ouf, il a demandé à Mitzrada, ce que tu veux, de faire réouvrir cette synagogue. Et ils ont dit, ben, non, pour des raisons politiquement correctes, on a muré, on a bétonné l'entrée de la porte. On a dit, mais t'inquiète pas, on va te faire une synagogue là-bas. Maintenant, la synagogue de 701, on l'a fait Zecher la Mikdash. Ben, aujourd'hui, on a fait une synagogue Zecher la synagogue. Zecher. Non, à l'époque, t'as pas besoin de tomber de ça. Tu mets ton corban. Et donc, à la fin, donc tout la Kehara, c'était la Shulchan. Et donc, on te dit, oh, crime est ta Shulchan. Pourquoi? Parce que normalement, quand tu manges, Stam, Shabbat, tu manges, et à la fin du repas, tu fais quoi pour débarrasser? Oh, crime est ta Shulchan. On prend le plateau, et c'est où? On a débarrassé. Et donc les enfants ils savent ce que ça veut dire de prendre le plateau, ça veut dire qu'on a fini de manger. Et là tu viens et au crime et ta shulchan, alors qu'il y a tout encore dessus, l'enfant il dit bah on n'a pas fini. Mais aujourd'hui ça a perdu un petit peu. Donc on t'a pris, t'as pris ton plateau, c'est en souvenir de ça, et tu fais un truc qui est en souvenir d'un autre truc. Alors, je suis pas contre, c'est tout ce qu'on fait toute la soirée. Il faut savoir quelle est la source à la base de chaque chose. Donc Bekito on a fait du bilo, on est Betsader, et donc il y a les questions du Mishkan. On a présenté à l'Armania, on arrive au Manishtana. Manishtana, Rabotai, c'est moi de Pachout. Toutes les questions, c'est un, d'une part, un cri vers Avadim Ayinu, et maintenant on est indépendant, et d'autre part, coup de gueule vers ce qui nous manque. Bah d'abord, on mange Kol Azman, d'habitude, Khametz ou Matzah. Bah là, il a Azé, Kulo Matzah. Lama.
Mais d'habitude, on mange pas tout le temps la Matzah.
Non, Khametz ou Matza? Chebechol, allez, l'otan, oblige Khametz ou Matza?
Tu
veux
la
Matza
pendant l'année?
Mais mon ami, qu'est-ce qui est plus ancien? Lechem à Khametz ou Lechem à Matza? Lechem à Khametz. Lechem à Matza, il est beaucoup plus ancien. On mangeait tout le temps de Lechem à Matza parce que ça va plus vite à faire, c'est plus rapide, c'est, voilà, c'est ce qu'on fait. Qui a inventé, historiquement parlant, d'ailleurs, on a plus ou moins pas mal de preuves là-dessus. Qui a inventé le pain Khametz? C'est les Égyptiens. C'est les Égyptiens. Et donc, lorsqu'on vient te dire, avant, d'habitude, on mange du pain égyptien ou du pain pas égyptien. Mais ce soir, on mange du pain pas égyptien. Ça veut dire quoi? C'est Yotzim, Yavzou, Pekherout. Ensuite, on dit, d'habitude, on mange tous les légumes. Ce soir, Maror, pas besoin d'expliquer, c'est Baro. Ensuite, tous les soirs, trempe pas. Et là, on trempe deux fois. D'accord? Elle a nous matbili, ma filou pas amrat, la 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 zèche n'est pas amine. Avant de vous dire ce que ça représente, c'est quand qu'on trempe deux fois?
Le
carpas, c'est bon.
Le maror dans le français.
Ah, c'est vrai que quand tu prends ton couteau et que tu tartines ta feuille de salade avec ta pâte à tartiner charoset, ça s'appelle vachement trempé, ça. Qui sait qui levait la main ceux qui ont un charoset qui ressemble à de la confiture? Et levez la main ceux qui ont un charoset, vous êtes tous des mythos, hein. Mais levez la main ceux qui ont un charoset qui est liquide.
Personne.
Liquide.
Personne.
Il y en a deux. Pourquoi tu dis personne?
Oui, c'est parce qu'il rate.
Ah, c'est parce qu'il rate. T'as vu, ils ont mis trop de jus de raisin. Rabotai, normalement le charoset il est liquide. Et c'est marqué dans Manishtana. Anachnu tovlim, matbilim, maror b'charoset. Agar, entre parenthèses encore une fois, il y a une raison très simple à cela. C'est quoi le maror? C'est quoi le Maroc? C'est quoi?
La Khassa.
La Khassa, la Zamal, la Romaine, Najib. Et pas du réfort comme nous on prend. Voilà. Bonne affaire. On n'avait pas de salade en Pologne. Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde ou quoi, mais quand des juifs de Pologne, mes grands-parents sont arrivés en France. Non, on a comme ça une massorette dans la famille. Mes grands-parents sont arrivés de Pologne en France après la Première Guerre mondiale. Et au début, ils étaient choqués quand ils voyaient les Français manger de la salade. Ils mangent de l'herbe comme les vaches. On ne comprend pas. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, manger des légumes frais comme ça en Pologne. Y'a pas? Bon, là, moi j'en ai. Zébaïèche, on fait avec ce qu'il y a. Macheloye, le marron, c'est de la salade. Bon, d'accord. Mais il y a un problème avec la salade. C'est quoi le problème avec la salade? Il y a plein de petites bébêtes. Non, il faut la nettoyer avant le seder. Comment on fait? Comment on fait pour nettoyer la salade?
On
fait pas un contrat à l'acha. Mais bon, pas shoot. Qu'est-ce qu'on fait?
Vinaigre.
Enfin, c'est le meilleur truc pour enlever le tralakim. Ah ouais, mais le problème, c'est que si tu le fais avant le Pessah, et que t'as laissé tremper, ça devient maror kavouche. Et maror kavouche ou pas soul le lait la seder. C'est un maror qui est plus apte à être utilisé. Il a
macéré. Mais on le laisse.
Oui, mais je sais pas comment on dit kavouche en français.
Mariné.
On
n'est pas obligé de le laisser 2 heures.
Non, mais même quand tu le laisses un petit peu, au niveau ultratique, ça devient déjà problématique. Et donc, pour pas rentrer dans ce problème-là, bien, on se tourne vers Achéno Atémanim, on se tourne vers Ndéhémini, qui ont toujours gardé. Non, Nahagou. Mais d'un goût comme à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont toujours leur kharoset, c'est vraiment liquide, c'est du sroug. C'est-à-dire à l'ancienne. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la salade, ils la mettent dedans. Ça tue tous les derniers harakim qui sont pas partis de... Quand je les lavais à l'eau et machin. Je fais comme ça, et puis je mange. Ah, quoi?
Il y a encore des petites bêtes.
Ah ben non, ils sont maintenant dans le pot de kharoset. Mais c'est kharif.
On aime bien finir.
Je vous rappelle juste qu'entre parenthèses, le kharoset, c'est censé rappeler quoi?
Le mortier.
C'est vrai que c'est...
Pourquoi c'est liquide alors? C'est bien que ce soit pas liquide, justement.
Non, voilà. Symboliquement parlant, c'est censé rappeler le tit. Je te rappelle que le tit, le mortier, avant d'être solide, il est liquide. C'est quand il sèche qu'il devient solide.
Bon, mais le symbole du mortier, c'est quand même...
C'est une pâte, quand même.
C'est la pâte,
ouais. Avant d'être une pâte, non, il est liquide.
Mais si on parle de symbole...
Ah ben, l'azov. Tu veux contrer Manishtana? Manishtana a marqué qu'on trempe. Et toi, tu dis non, on va tartiner.
Mais on peut tremper aussi avec quelque chose qui est... Je veux pas rentrer dans les détails...
Oui, c'est vrai.
C'est pas obligé d'être liquide totalement pour tremper. Ouais.
Si tu veux tremper dedans, et non pas les naguef roumous, il faut que ce soit liquide.
J'ai essayé de tremper la massa dans du Nutella, c'est bon,
ouais. Pas
si. On va foncer sur le recette.
Non, c'est non.
Mais attends, mais c'est qui clignote là,
Pédicine? Ouais, d'accord.
C'est fini. Bekitso, Manishtana Alayla, c'est d'habitude on trempe pas. Et maintenant on trempe 2 fois. Non, alors là-bas on trempe. On a dit, d'abord, le carpasse. Deuxième fois, Raoset, tout ça s'échouffe pas à l'amertume. Parce que le carpasse, on l'a trempé dans l'eau salée. Top de salaire. Et la dernière truc, d'habitude, Ben Yoshvim, Ben Mesoubim. Allah et la Zekulanou Mesoubim. C'est que toutes les 4 questions du Manishtana sont tournées vers une chose. On était esclaves et on sort. Mais j'ai dit qu'il y avait aussi un coup de gueule. Vous savez qu'il y a un chiffre qui revient très souvent dans la Haggadah? 4. Et qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Quand il y a 4, il y a 5. Ron, quand tu as 4 points, ça dévoile forcément un 5e. Il y a toujours un 5e qui se cache. Et la vérité, c'est que ces questions-là de Manishtana, vous savez où elles sont marquées à la base? Dans la Mishnah. Sauf que dans la Mishnah, il y a une 5e question. Manishtana, alayla azé, chebechol alelot, anu ochlin, tzli esh umevushal bamaim, alayla azé, hak tzli esh.
On l'a enlevé parce qu'on ne le fait plus.
Ouais. C'est trop dur de le dire tout le temps. Tous les soirs, normalement, on mange soit grillé, soit cuit, soit n'importe comment. Ce soir, on mange que grillé au feu de bois. On parle de quoi?
Non.
Du corban. C'est trop dur. C'est trop dur de dire ça alors qu'on ne le fait pas. Mais toi qui as étudié la Mishnah, tu sais qu'il y a une 5e question. Et donc c'est un coup de gueule, dis non, c'est pas possible. Quoi, je fais pas encore? Maintenant, une fois que j'ai ouvert avec mon intro, j'ai posé mes questions, j'ai bien montré quel était le kivoun, quelle était la direction. Alors je peux rentrer dans mon premier développement. Et le premier développement, il commence comme ça. Avadim aïnou le paro b'mitzraim. Donc on était esclaves de Pharaon en Égypte. Va'yitzienu misham be'yat chazaka ou mitzvah netuya. C'est bon. Vous j'ai commencé en disant ce qui n'était pas bien. J'ai fini en disant ce qui était bien. J'ai fini. Bah effectivement, j'ai fini. J'ai plus rien à raconter sur la sortie d'Égypte. J'ai tellement plus rien à raconter sur la sortie d'Égypte. Hein?
Je peux revenir à Abraham.
Non, c'est dans longtemps, Abraham. Oulala. Non, non. J'ai tellement plus rien à raconter sur la sortie d'Égypte que je vais te balancer des autres trucs qui a priori n'ont rien à voir. Du style. Hein? Attends, Abraham, c'est la classe. Non, non, je vais d'abord te dire un truc qui a priori aucun rapport. Et je vous demande de me répondre honnêtement, est-ce que vous y croyez ou pas à la phrase que je vais lire maintenant? C'est la suite, hein. Non, avant.
Veilou.
Veilou. Veilou, l'otzi, Akadosh Baruch Hu et avotenu mitzrayim, are anu, uvanenu, uvne banenu, mishuabadim ainu le paro be mitzrayim. Je traduis. Et si Pharaon n'avait pas sorti nos ancêtres d'Égypte, alors nous, et nos enfants, et nos petits-enfants, nous serions encore esclaves de Pharaon en Égypte. Vous y croyez à cette phrase?
Il n'y a plus de Pharaon.
Non, vous y croyez ou pas?
C'est pas Pharaon le sujet de la phrase.
Non, il se
trompait. Non, qu'est-ce que j'ai dit?
Pharaon et vous avez pas dit.
D'abord, je ne me suis pas tellement trompé, je vous rappelle que c'est quand même Pharaon qui nous a. Almanab. Enfin, moi, c'est d'après ce que je me rappelle, Dieu il a quand même passé 10 plaies pour convaincre Pharaon de nous aller sortir, donc finalement il nous a quand même laissé sortir. Mais bon, si Dieu nous avait pas laissé. Nous avait fait, bah, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, alors nous, nos enfants, nos petits-enfants, seraient toujours esclaves de Pharaon en Égypte. Et ma question, c'est est-ce que vous y croyez à cette phrase?
Oui, bah, non, il n'y a plus d'Égypte, il n'y a plus des.
Attends, Marc Loquette, toi tu dis oui, toi tu dis mais non, il n'y a plus de pharaon.
Il n'y a pas de pharaon, il n'y a pas d'esclaves.
Il
n'y
aurait plus, enfin, il n'y aurait pas de. Ce serait à Israël, quoi.
C'est pas ce qui a marqué. Toi tu proposes une troisième version. Tu dis s'ils n'avaient pas sorti d'Égypte, alors on se serait assimilé. Je veux bien, mais c'est pas ce qu'il y a marqué là. Là, il y a marqué, si Dieu ne nous avait pas sorti d'Égypte il y a 3500 ans, alors 3500 ans plus tard, on serait toujours en train de construire des pyramides comme des idiots sous la domination de Pharaon. C'est ce qui a marqué. C'est ce qui a marqué ou c'est pas ce qui a marqué? Et je vous ai dit, j'ai tendance à penser que les sages, quand ils écrivent, ils croient à ce qu'ils écrivent. Donc qu'est-ce que, comment on comprend ça? Allez, il aurait pu se passer un milliard de scénarios. Sans qu'on reste forcément pour autant esclave de Pharaon en Égypte. Comme tu dis, je te rappelle qu'au moment où c'est écrit, il n'y a déjà plus de Pharaon. Fini. La dernière pharaone, Léo. Elle a mal tourné.
Il n'y a pas marqué à Vadim Aïnou. Ouais, je Vadim. Ça veut dire c'est nous, on n'a pas sorti
de. On t'a sorti. Rien fait, tu rajoutes un mot qui n'est pas marqué. Meshua Badim, Rouchanit Aïnou, les paroles de Mitzrayim.
Meshua Badim.
Mais d'accord, parce que Shiaboud, ça veut dire Shiaboud.
Ça collait.
Non. Shiaboud, ça veut dire Shiaboud. C'est-à-dire que un des grands problèmes que l'exil nous a fait, c'est qu'on a voulu tellement tout rattacher uniquement au monde spirituel parce qu'on est devenu chrétien, que pour nous il y avait le matériel, c'est l'égoïsme, le spirituel c'était nous, ce qui est faux, totalement faux. Donc on a commencé à donner des explications à des termes qui sont évidents. Quand on parle, je te parle en français, je te dis l'esclavage. La première chose qui vient à l'esprit, c'est l'esclavage spirituel. Ah si, Shiaboud, c'est ça. Non, ça vient du mot Eved. Eved, d'abord et avant tout, c'est Eved. Attends, Alakha, c'est quoi un Eved? D'abord et avant tout en hébreu, Eved, ça veut dire Eved. Nekuda. Après, tu veux me dire là-dessus, c'est-à-dire, toutes les explications ésotériques, elles sont acceptables, il n'y a aucun problème. Aval en mikra yotse mide pshuto. D'abord, il faut que ça colle avec l'explication numéro 1 du texte. Et donc le texte te dit que tu seras encore esclave de Pharaon en Égypte. Et ça me pose un problème parce qu'il n'y a plus de Pharaon.
Oui, parce qu'il n'y a plus de pharaons, parce qu'on n'y est plus.
Ah bon? Mais je te rappelle que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y avait encore des pharaons. La preuve, c'est qu'il y a un Shishak qui est venu nous prendre la tête juste après Shlomo. Il y a Paronecho qui est venu, qui a tué Yoshiaou Melech Yehuda, bien après la sortie d'Égypte. Qu'après ça, on a eu encore des incursions de pharaons, et que ce soit Amenhotep, ou que ce soit Akhenaton, ou que ce soit Toutankhamon. Il y a eu Cléo. Ah non, mais je reviens sur elle. Parce que Cléo, qu'est-ce qu'elle a pu nous prendre la tête? Elle n'était pas du tout copine avec Hérode. Ah non, pas du tout. Bon, le problème, c'est que Hérode, c'était le copain de Marc-Antoine, et elle couchait avec Marc-Antoine. Conflit d'intérêt, qu'est-ce que tu veux? Non, ça veut dire, elle n'a pas la sorte. On est sorti d'Égypte, il y avait quand même des pharaons. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La vérité, c'est que cette problématique, elle a été mise en valeur par le Rav Kook, et il va donner une réponse. Réponse qui est assez incroyable. Il dit, Bémet, si Dieu ne nous avait pas fait sortir de nos ancêtres d'Égypte, alors il ne le dit pas avec ces mots-là, mais il dit que le monde serait rentré dans un frise. Alors là, Maya, nique pas. On serait gelé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il explique. Il dit que le rayon, l'idée d'évolution, pourquoi ça nous dérange cette explication que si on n'était pas sorti d'Égypte, alors on serait 3500 ans plus tard toujours esclaves de Pharaon en Égypte? Ça nous dérange parce qu'on est des occidentaux. Et que dans la culture occidentale, l'idée de mouvement, l'idée d'évolution, l'idée de faire améliorer les choses, c'est une des bases de notre société. Dit le Rav Kook, l'idée même que les choses peuvent évoluer, c'est le chidouche de la sortie d'Égypte. Et te dit, les civilisations, les seules civilisations qui ont pour fer de lance d'avancer, c'est les civilisations qui sont en contact ou qui ont été en contact de près ou de loin, que ce soit par l'intermédiaire du christianisme, avec la sortie d'Égypte. Il dit, les civilisations qui n'ont pas été en contact avec la sortie d'Égypte n'ont pas bougé. Et comme exemple, on pourrait citer les civilisations d'Amérique centrale, les Aztèques, Incas, qui n'ont pas bougé d'un iota en 2000 ans, jusqu'à ce que Cortés les ait massacrés tous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bougé. La civilisation aztèque, elle n'a pas bougé en 2000 ans. Cloum, les mêmes pyramides de madrigaux, d'escaliers, les mêmes sacrifices humains, les mêmes dieux, rien n'a bougé.
Mais en quoi les Occidentaux étaient liés à la sortie d'Égypte?
Le monde occidental, c'est le monde qui est basé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la culture judéo-chrétienne. Donc oui, sortie d'Égypte. Mais le Rav Kook, il va donner également l'exemple avec les Chinois. Il dit jusqu'à nous, où il y a un début de jusqu'au XXe siècle, la Chine a été complètement écartée du monde occidental. Volontairement, elle ne voulait pas se mêler. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que toutes les inventions que l'Europe a mis en valeur, que l'Europe a découvert depuis la Renaissance, 17e, 16e, fin de 16e, 17e, toutes ces inventions, toutes ces découvertes scientifiques ont finalement amené à ce qu'on appelle la révolution industrielle et la génération d'Internet. Toutes les découvertes depuis la Renaissance jusqu'à maintenant qui étaient faites au 16e, 17e, étaient déjà connues en Chine au 11e siècle. Seulement la différence, c'est qu'ils n'en ont pas fait une révolution industrielle. Parce que c'est une mentalité là-bas. C'est pas parce que tu découvres quelque chose de nouveau qu'il faut changer le monde. Qui t'a dit que le monde qui va changer, il sera meilleur que celui que tu as eu déjà? C'est une façon de penser. Et finalement, le Rav Kook vient et termine en disant, je t'ai donné des exemples sur la vie, c'est marqué dans la Torah. Et il nous donne comme exemple, je sais pas si vous avez entendu parler, de Yosef? Vite fait. Ouais. Lui aussi, il a eu un problème avec un pharaon. Et très bizarre, le pharaon Yosef, on nous dit un truc très bizarre, il a fait un rêve. Alors, je vous demanderai pour jouer le jeu, vous êtes maintenant Khartoum Mitzrayim. Vous êtes maintenant les plus grands sages de l'Égypte. Et moi, je suis pharaon et j'ai un gros problème parce que j'ai fait un rêve, ça fait plusieurs nuits là déjà. Je comprends pas bien, alors messieurs, dames, veuillez m'aider. Alors voilà, je vous explique hein, en deux mots. Alors, je fais un rêve très particulier où au début, il y a plein à manger. Après, plus à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, tous les Chachmei Mitzrayim, ils disent, je peux mettre une tchéla. Et il y en a qui dit, écoute, j'ai un pote, pour l'instant, il est en prison, mais bon, c'est pas de sa faute. Hein, c'est pas lui. Hein. Bon, écoute, fais-le venir. Il arrive, Yosef, et là, Paro, il lui dit, écoute, j'ai fait un rêve incroyable. Je t'explique. Hein. Au début, dans mon rêve, il y a plein à manger. Il n'y a pas beaucoup à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? D'autant plus que, en hiéroglyphe, le symbole qui parle d'une vache, c'est le même symbole qui parle de l'année.
Ouais,
donc, cette vache, qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait beaucoup à manger, après il n'y avait pas beaucoup à manger cette fois. Et là, le chef, il lui dit, écoute, ton rêve, ça veut dire qu'au début, il y a beaucoup à manger. Mais, il n'y a pas beaucoup à manger. Et la parole lui dit, Acharé odiacha Elohim et kol zot, en navon ve chacham kamocha, il n'y a pas plus. Tu voudrais pas être Premier ministre? C'est génial, temps mort. Quoi, j'ai pas compris. Pourquoi vous riez? Parce que c'est évident. Alors si vous, tout le monde, on a tous trouvé, on est plus fort que des Khartoumim, on est plus fort que des mages égyptiens qui sachent transformer l'eau en sang, tic-tac. Pourquoi personne qui a pensé à cette explication? Effectivement, certes, une explication hors du commun. Mais parce que c'est pas possible, quand t'es Khartoum, de penser à cette explication-là. Parce que ça veut dire quoi qu'il n'y a pas à manger en Égypte? C'est qu'au début, il y aura beaucoup à manger, et qu'après, il n'y aura pas à manger. La famine ? Pas à manger. Alors pourquoi c'est pas possible pour un Khartoum d'arriver à ça ? Parce qu'il y a toujours à manger en Égypte. Pourquoi il y a une famine en Égypte ? Qu'est-ce qu'il faut ?
Le Nil.
Que le Nil ne marche plus. Il y a rien de ce qui va arriver à la sortie d'Égypte. Et donc c'est exactement comme ça que dit le Rav Kook. Si jamais on n'avait pas, on nous avait pas sorti d'Égypte, il n'y aurait pas eu cette idée qu'on peut changer le monde. Et là, on a compris ça, très bien, tout va bien, on est pépère, on est lancé. Mais il faut quand même faire un petit pic sur la deuxième Agada. Vous rappelez la Agada d'Atit ? Suivez bien avec moi le texte. On le connaît tellement par cœur qu'on en oublie ce qu'il y a marqué. Et par là, on terminera pour aujourd'hui. Vafilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu skenim. Entre parenthèses, kulanu rabbanim, genre on est les rabbins quoi. Kulanu yodim et ta Torah. Mitzvah alenu leaniach tfilin. Non, c'est pas ce qu'il y a marqué. Mais c'est une phrase comme ça, elle voudrait rien dire. Parce que je comprends pas. Si raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah. Ah, pourquoi il y a un Hava Amina, pourquoi il y a une face, une idée de penser que les rabbins ils seraient exemptés de cette mitzvah. Là on nous dit, même les rabbins, ils doivent raconter la sortie d'Égypte.
Parce qu'ils en parlent tous les jours.
Et quel rapport?
Bah quand t'es rabbin...
Et je mets les films tous les jours.
Oui.
Et alors bah, donc, si j'ai une mitzvah de mettre à un moment donné les films. Disons que moi je suis un grand rabbin, je mets la film toute la journée. J'ai quand même une mitzvah à un moment donné de mettre les films. Donc ça ne viendrait pas à l'esprit de personne de dire... Même les rabbins qui parlent de Shabbat toute la journée parce qu'ils enseignent Massechet Shabbat, même lui il doit faire Shabbat.
Mais il dit que c'est justement une mitzvah.
Mais c'est une mitzvah. Ah non, ouais mais là, tout le monde, c'est une mitzvah, c'est compté dans la liste des mitzvot, donc il n'y a pas de problème.
Mais c'est une mitzvah le jour de Pessah, le soir de Pessah.
Et c'est une mitzvah le soir de Shabbat de faire Shabbat.
Oui.
Et pourtant peut-être que moi je suis un rabbin qui parle de Shabbat toute la journée. Pourquoi t'as un Hava Amina de penser que le rabbin il voudrait pas faire Shabbat?
Bah justement, c'est parce que c'est la même chose, parce que faire Shabbat et étudier Shabbat, c'est pas pareil. Tandis que
alors,
étudier.
Là, c'est raconté, alors mais
c'est la question, je dis pas, je dis rien.
Mais non, je comprends pas ce que tu dis.
La veille, si la veille de Pessah, j'ai étudié la Torah et donc j'ai parlé de la Yetzirat Mitzrayim qui, tout le long de la
J'ai pas fait ma mitzvah de Sipour Yetzirat Mitzrayim.
Parce que c'était pas ce jour-là, mais c'est la même chose.
Bah, si j'ai mis ma plata de Shabbat le mardi, j'ai pas fait ma mitzvah de Shabbat non plus.
Non,
mais parce que. Et pourtant, t'as aucun Hava Amina de dire, sache que même les rabbins qui mettent leur plata de Shabbat le mardi parce qu'ils ont envie de faire un kiff, même eux, ils doivent faire Shabbat. Non, c'est si c'est une mitzvah de faire Shabbat, même le rabbin, il fait non. Comme tout le monde, il doit faire la mitzvah.
C'est le problème de Korah. C'est le problème de Korah. On a un livre dans la maison, on a plein de
Non. Par quel rapport avec la sortie d'Égypte ?
Non, mais
vous comprenez mon problème. Le problème, c'est que raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire, même les rabbins sachent qu'ils vont faire, ils doivent faire cette mitzvah-là ?
C'est un but, cette mitzvah, et j'ai atteint mon but.
C'est-à-dire
non, même les rabbins, les enfants,
ils le savent. Si vous voulez être Israël, c'est pour comprendre.
Depuis quand on a le droit de regarder dans ce qu'on appelle Ta'ameh HaMitzvot? On a une mitzvah, parce qu'on a une mitzvah. Après, il n'y a pas de question de savoir où est-ce qu'on est dans l'échelon de la connaissance toranique. J'ai une mitzvah, je fais la mitzvah. C'est tout.
Que le but c'est d'aller les minra, peut-être. Alors, l'enfant, il connaît.
Tu le racontes aux enfants, c'est pas grave. Donc les rabbins.
Regarde, s'il n'y a pas d'enfant, t'as quand même la mitzvah de le faire.
Voilà, c'est ça.
Même à toi tout seul, tu dois te la raconter. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah, et la question c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de te dire, même les rabbins ils doivent la raconter.
Parce que c'est la marque de Shmuel. Même les rabbins ils doivent raconter Avad
Maïnou. Oh, voilà. Parce que Béhémeth, les rabbins, ils sont pas contents de la première version de la Haggadah. Parce que pour un rabbin, c'est plus sympa que qui doivent s'occuper de tous les trucs extérieurs, des impôts, de l'éducation, de la santé, machin. Si c'est Pharaon qui gère tout ça, nous, c'est plus sympa pour étudier la Torah. Mais si maintenant on sort d'Égypte, on va devoir s'occuper de tout ce genre de trucs. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement forcée, évidemment. Et donc, il te dit non, même les rabbins, ils doivent raconter la sortie d'Égypte.
Moi, il était rabbin quand même.
Mais tu remarqueras. On n'a pas mis son nom Rav Shmuel. Non, ça, je ben, j'ai dit, mais il y en a qui ont compris que c'était ça l'idée. Baro. Mais c'est un pif sur la deuxième Agada, c'est Baro. Maintenant, j'ai raconté la sortie d'Égypte. J'ai dit, Avadim Aïno le Paro Ben Mitzrayim, Veotiano, Hachem Loganum, Misham Beatra Sakam, Zraim Touya. J'ai fait mon devoir. Seul problème, c'est que pour moi qui raconte, quand je suis celui qui écrit la Agada, ce que je viens de raconter, c'est un événement présent, passé, futur. passé. J'ai raconté, non, là je viens de dire, Radim Aïnou, le parent de Mitzrayim, c'est du passé. Et le problème, c'est que la fin du premier paragraphe me dit, V'chol amarbe le saper, Beitzat Mitzrayim, arrête de meshuba. C'est-à-dire quoi? Tout celui qui en rajoute. Maintenant, ça vous est déjà arrivé de raconter une histoire que vous n'avez pas vécue mais qu'on vous a transmise? Ouais, ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce que vous pouvez raconter de cette histoire? Ce qu'on vous a raconté. Tu peux pas en rajouter. Le seul qui peut... C'est-à-dire, tu peux m'étonner. Oui, tu peux m'étonner. C'est nachal. Mais pour de vrai. Le seul qui peut en rajouter, en rajouter, en rajouter, c'est qui? Celui qui a vécu les événements. Celui qui a... Ou le Tunisien, on a déjà dit, mais ça... On a dit El Malasot, pour de vrai. Celui qui a vécu les événements, lui, il peut en rajouter Ensof. Et donc, ça veut dire que si on te demande ici d'en rajouter, alors que tu viens de raconter une histoire au passé, t'as plus d'autre choix que de dire, il va falloir que tu racontes maintenant une histoire au présent. Ce qui veut dire que la Haggadah, la première du moins, elle est sur trois plans. On a commencé sur un plan passé, et la semaine prochaine, on va devoir s'attaquer à la Haggadah au présent, et à la Haggadah au futur, pour pouvoir nous faire rentrer dans la deuxième Haggadah. Donc, on a du boulot jusqu'à la semaine prochaine. Deshiyeh lanu bentayim, shavua tov. Mes agadotes reviennent chez moi.
Voilà. Ah.